Ben oui, notre invité qui nous a appelé, je suis très heureuse qu'il soit des nôtres parce que c'est un sujet quand même important qu'on va aborder avec lui. Sachez que il fait moins 13 à l'extérieur en ce moment, donc c'est assez frisquet, refroidissement éolien de près de moins 15 ce matin, des vents de 20 km/h cet après-midi, rien d'alarmant pour le moment. Je rappelle qu'il y a un avertissement de pluie verglaçante de la part d'Environnement Canada. Donc, pour cette nuit, 2 mm de pluie verglaçante vont s'ajouter à cette couche de glace qui semblait vouloir fondre. Mais non, on en rajoute. Donc, on va continuer à glisser et l'opération déglaçage de trottoir va sans doute se poursuivre dans les prochains jours. Donc, dans les derniers mois pandémiques, on a beaucoup entendu parler d'autonomie alimentaire. En raison, bien sûr, des difficultés d'approvisionnement. On sait que le gouvernement provincial là, parle de projets, de grands projets, financer des serres gigantesques. Là. Mais qu'en est-il de serres à échelle humaine? On se demande ce matin si cette manière de faire de l'agriculture pourrait permettre aux urbains d'être autonomes malgré l'asphalte et le béton qui sont des milieux, là, on va se le dire, plutôt hostiles, pas très fertiles. Si les serres urbaines là nous permettaient d'aider des gens dans le besoin, des gens défavorisés à se nourrir donc avec des aliments frais, ce serait quand même vraiment le fun. Nathan McClintock est professeur et chercheur en géographie au Centre d'urbanisation, culture, société de l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS. Il a réfléchi à la chose. Il est avec nous au téléphone. Nathan McClintock, bonjour.
Bonjour Marjorie, ça va bien?
Ça va très bien. Vous avez réfléchi à cette question donc pendant la pandémie. Est-ce que ça a été le premier déclic, cette pandémie, ou si vous y travailliez depuis une certaine période avant la pandémie?
Oui, ben en fait, ça fait presque 20 ans maintenant que je travaille sur l'agriculture urbaine.
Ça fait un petit
peu partout. Ouais, j'ai commencé en tant qu'agronome au Sénégal, au Mali, en Haïti, puis à Oakland, en Californie, pendant mes études doctorales. Et puis en tant que prof d'études urbaines à Portland, en Oregon, à Vancouver et maintenant ici à Montréal. Donc, projet communautaire, c'est vraiment le plus récent chapitre pour moi.
OK. Donc, ce projet communautaire pourrait s'apparenter à un projet de jardin communautaire. Mais bon, à la différence des jardins communautaires, on pourrait cultiver toute l'année?
Oui, c'est ça l'idée, ou au moins de prolonger la saison. Mais bref, le but du projet, c'est d'évaluer les enjeux liés plutôt à l'intégration des serres communautaires et solidaires dans les quartiers les plus frappés par la pandémie. Quels sont les obstacles, les possibilités, non seulement techniques, mais aussi sociaux et politiques. C'est pas limité au modèle de jardin communautaire classique, là où chacun fait son petit parti, mais ça pourrait aussi faire partie d'un jardin collectif, là où tout le monde partage un espace, ainsi qu'un projet d'économie solidaire, plus grande échelle, avec un but de sécurité alimentaire.
Oui, c'est ça. Vous l'avez nommé dans certains quartiers, là vous travaillez à Montréal, mais dans certains quartiers urbains, l'autonomie alimentaire, là, c'est vraiment pas évident.
Oui, c'est ça. Il y a vraiment des quartiers où il y a des taux élevés d'insécurité alimentaire et on a vu que c'est ces mêmes quartiers qui ont été le plus frappés par la pandémie.
Bon, une serre maintenant, ça coûte quand même cher à construire. Là, on peut s'imaginer une serre classique là en verre. C'est peut-être plus en verre, les serres, c'est peut-être en genre de plastique. Là, je connais pas ça, mais j'imagine qu'il y a des matériaux qui coûtent moins cher que ça. Avez-vous des exemples?
Oui, en fait, c'est un début du projet, c'est d'explorer ce genre d'alternatives à ce genre de serre gigantesque, high-tech, en verre, qui coûterait des millions et qui donc serait pas du tout possible pour des petits projets communautaires, des OBNL, etc. Donc, on s'intéresse également aux tunnels classiques en polyéthylène, même des petits serres à potager, des couches foires. Et un de nos partenaires du projet, le laboratoire sur agriculture urbaine, ils expérimentent présentement exemple, présentement, maintenant, avec la transformation des abris tempo en serre. Donc,
les abris tempo,
Québec,
là, comme juste... les garages, oui. Abris tempo en
oui,
toile
exactement.
Blanche. Là. OK.
Exactement. C'est vraiment une ressource naturelle ici au Québec, je dirais.
Oui, effectivement, c'est quand même assez facile à trouver.
Partout, ouais.
C'est, comme les, c'est comme les piscines individuelles l'été, il y en a
ouais,
beaucoup. Oui,
exactement. Ouais.
Bon, donc ça, ça peut, ça pourrait devenir une serre.
Ouais, il y a des belles expériences que vous pouvez fouiller en ligne pour voir des photos. Il y a un petit projet qui s'appelle Compose ton char, voilà.
Compose ton char. J'ai-tu bien compris?
Ouais, c'est un projet. Okay. Ouais. Compose ton char, c'est-à-dire transformer l'abri tempo
ben
en,
oui.
en jardin.
Quelle bonne
ouais,
idée. Vraiment.
Ouais.
OK, ce projet de recherche communautaire sur lequel vous travaillez se déploie en plusieurs volets. C'est un projet de recherche. Vous vous intéressez notamment, bien sûr, à la question de l'énergie, parce qu'il faut alimenter tout ça en énergie. Ce serait quoi les solutions pour minimiser la consommation et les coûts d'énergie?
Ben, en fait, c'est le domaine de mes collègues qui sont basés là à Québec, à ETE, à INRS, au terrain environnement. Mon collègue Jasmin Raymond, par exemple, s'intéresse à l'intégration de différents systèmes géothermiques de creuser dans le sol, dans le serre même. Il y a Didier Ayot et Daniel Monfay à l'École de technologie supérieure qui sont en train de modéliser tout le bilan énergétique de divers types de ces serres et de d'augmenter l'efficacité énergétique. Louis-César Pasquier aussi à l'INRS, il fait le bilan de CO2. Et on fait cette volée technique, on s'intéresse surtout à comment intégrer les serres dans le tissu urbain qui existe déjà,
oui.
Donc sur les toits attachés au mur sud d'un bâtiment, par exemple, pour capturer et utiliser la chaleur du bâtiment même, donc l'échappement de chaleur.
Oui, bonne idée.
Et non seulement la chaleur, mais aussi l'eau. Notre collègue à l'INRS, Jean-Vier Bordelot, elle vise les possibilités de recyclage des eaux par des serres. Ouais, mais
okay.
C'est vraiment ce concept de recycler le tissu urbain. Ouais.
Ouais, vous avez parlé de toit. Ça, c'est une problématique en milieu urbain, l'espace, c'est-à-dire la disponibilité des terrains pour installer ce genre de serre-là. C'est pas donné à tous d'avoir, si on est, par exemple, un regroupement, une coop. Des fois, on n'a pas de cour en arrière si on parle d'initiative
ouais,
de type plus privé. Là. Et c'est quoi la solution?
Ben, il y a beaucoup de, on peut travailler avec, par exemple, la ville pour essayer de d'intégrer une serre dans, par exemple, une nouvelle, une zone de réaménagement. Là, ils font une grosse, transforment une grosse friche industrielle, comme la cité Louvain-Est à un de ses quartiers villes. La ville est en train de travailler avec des partenaires pour développer un pôle alimentaire, en créant dans le développement des logements abordables. Il y a bien des parcs, je pense à l'exemple de la serre de notre quartier nourricier dans le centre-sud de Montréal, qui était en collaboration avec les OBNL et l'arrondissement de Ville-Marie. Mais aussi, là, beaucoup de possibilités de construire sur les terrains institutionnels aussi. Les serres de dos blanc, par exemple, est un coopératif but solidaire qui a été construit sur le terrain du cégep Saint-Laurent. Et bien sûr, il y a les trois qui sont un peu partout dans les villes.
Oui, oui, oui. Donc ça, c'est possible de construire des serres sur les toits, quoique il doit y avoir plein de conditions à remplir là, pour parce que ça peut être quand même assez lourd, j'imagine.
Oui, c'est ça. Donc, il y a toujours des enjeux techniques au niveau de code bâtiment aussi.
Oui, c'est ça. C'est important quand même. Faites pas ça tout seul de votre bord.
Ouais.
Là. C'est pas conseillé.
Ouais, c'est ça.
depuis quelques années, M. McClintock, on assiste à un embourgeoisement vert. Est-ce que c'est pas justement là un obstacle envisageable pour que votre projet là, demeure accessible pour tous et toutes?
Oui, absolument. Et je suis vraiment content que tu poses cette question parce qu'en fait, c'est ça l'objet principal de mes recherches ces dernières années. Et franchement, c'était ma motivation de développer le projet tout au début. Grosso modo, on voit beaucoup d'intérêt dans ce genre de projet qui sont souvent menés par les jeunes blancs et blanches, hipsters, plus nantis, plus scolarisés,
ouais.
Qui s'installent dans un quartier défavorisé. Avec une population plus diverse, moins nantie, là où il y a des terrains vagues et donc qui invitent effectivement ces genres de projets, et là où il y a des taux d'insécurité alimentaire plus élevés. Mais la population locale est souvent très méfiante de ce genre de projet et de ces nouveaux arrivants qui sont à la tête, et moi je dirais à juste titre, souvent ils arrivent avec une attitude un peu, disons, missionnaire ou coloniale, genre, oui, on doit sauver ces pauvres gens, mais sans les impliquer ni dans l'idéalisation, ni dans le, oui, développement, ni dans la gestion du projet. Donc, en fait, ça, c'est l'idée de cette volée du projet avec ma collègue Aliénès, Sophie Van Est. C'est vraiment d'évaluer ces enjeux, de discuter les processus d'inclusion au sein de ces projets, de parler avec les communautés autour de ces projets pour comprendre leurs perspectives, aussi vraiment d'écouter leurs craintes et leurs soucis et de faire l'effort pour les intégrer.
Ouais, donc, c'est vraiment intéressant, ouais, parce qu'ici, on a un projet d'ailleurs d'agriculture urbaine. C'est pas une serre, mais ce sont les urbainculteurs, tout près de la station, mm-hmm, ici en face, qui occupe une grande partie de ce qui était l'ancien marché du Vieux-Port, qui cultive des légumes, en tout cas toutes sortes de choses. C'est immense. Il y a des immenses choux, d'ailleurs, qui sont sortis de là cet été. C'est incroyable. Mais cela dit, ils ont un programme de réinsertion à l'emploi, si je me trompe pas, qui fait partie aussi de toute cette belle initiative. Et ils vont chercher des gens, justement, qui résident dans le quartier, qui peuvent profiter aussi de développer une expertise pour jardiner. Donc ça, c'est vraiment un projet qui est très complet. Ensuite, on a des cuisines collectives qui s'affairent à cuisiner les aliments. C'est ce genre de questions là, que vous vous posez, là.
Oui, exactement. Et ouais, c'est ce genre de projet qui m'excite le plus, qui sont vraiment holistiques, qui pensent, ouais, à ces enjeux d'inclusion, etc. Ouais.
Ouais. Ici à Québec, j'ai pas le choix de vous poser la question parce qu'on a une serre. Une immense serre de 2464 mètres carrés à Charlebourg, en banlieue de Québec. C'est quand même assez près de la ville, là. C'est une banlieue quand même assez dense, Charlebourg. Cette serre-là, elle est fermée depuis 15 ans. Elle avait été construite au coût de 14 millions de dollars au début des années 2000. Quand on parlait de millions de dollars pour les serres, là, ça, c'est 14 millions. Ouais. Il y a des citoyens, des citoyennes qui se sont mobilisés dernièrement pour éviter sa destruction. Il y a eu une pétition qui circule encore, mais en vain, la serre sera détruite. Est-ce qu'une serre comme celle-là, Monsieur McIntock, pourrait constituer un projet de type communautaire?
Ben, j'ai jamais visité, mais j'ai vu des photos et je crois bien. Et je crois que ça pourrait être renouvelé pour des buts solidaires. Il y a un tel exemple à Verdun, ici, à Montréal, où les anciennes serres municipales ont été abandonnées et qui sont maintenant gérées par un OBNL, un projet qui s'appelle Le Grand Potager, et qui fait exactement ça. Donc, peut-être ça pourrait servir d'inspiration pour ces militants à Charlebourg. Ouais. Et un bel exemple pour les décideurs, et j'espère bien qu'ils changeront d'avis ici les prochaines semaines avant qu'elle soit démolie.
Oui, parce que tout le monde trouve ça très dommage, en fait.
Oui, surtout si c'est tout à fait récent, quand on se construit en 2000, je crois que c'est sûr qu'il y a l'infrastructure qui est toujours bon.
Parce que j'imagine que ça pourrait nourrir beaucoup de personnes, là. 2464 mètres, on parle, ouais, pas d'un abri tempo, là.
Exactement, exactement. Donc, courage pour ceux qui militent pour ça.
Parfait. Nathan McIntock, pardon, professeur et chercheur en géographie au Centre Urbanisation, Culture, Société de l'INRS. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de ce sujet vraiment passionnant ce matin, les serres communautaires. Bien sûr qu'on peut faire nos propres recherches, aller voir les articles qui ont été écrits là-dessus. C'est vraiment fort intéressant. Merci beaucoup, puis je vous souhaite une belle journée.
Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, ma chérie. Au revoir.
Bye-bye.
Ici Vijay Rangaya, vous écoutez CKIA 88.3 FM à Québec et CKIA FM.org partout sur la planète.